annoncer l'évangile. Il ne faut pas avoir un diplôme, hein. C'est pas réservé à des spécialistes, voilà, spécialistes, évangélistes. C'est donné à tout le monde, c'est donné au peuple de Dieu. Et vous savez, on peut prêcher sans parole, hein. On peut prêcher en priant, on peut prêcher en se taisant, on peut prêcher par des actes simples, un sourire, un bonjour, une amitié, une parole de temps en temps, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est à nous de le faire. Et si nous voulons que Jésus soit glorifié, et c'est le désir du Père qu'il le soit, eh bien, ayons à cœur les hommes et les femmes autour de nous qui se perdent. Il y en a tellement. Nous, quelques-uns, on est quelques-uns depuis le début du mois de juillet à aller au marché des Nains-Beaumont. Et combien c'est touchant et en même temps bouleversant de voir tous ces gens. Il y en a tellement, tellement. Finalement, ils n'attendent que ça, qu'on leur parle de Jésus. Et je parlais justement à un monsieur en venant, là, il boitait avec sa canne, c'est votre voisin, monsieur Poix, le voisin des Malariques. J'ai même prié pour sa jambe. Voilà, il dit, ah ben oui, je connais, ah oui, je suis le voisin des Malariques. Ben, il était déjà au courant, vous voyez. Et le fait d'annoncer l'évangile, c'est, on arrose, parfois on sème une graine. Et je vous encourage, je nous encourage à venir le vendredi. On va essayer de faire ça tous les vendredis. Rendez-vous ici vendredi à 10h moins le quart, on fait une courte prière et puis après on va au marché, on parle de Jésus. Alors ma femme elle est venue, elle n'est pas à l'aise ma femme, elle dit oh moi j'aime pas, je suis pas à l'aise. Ben, je dis ben viens avec nous puis prie, ben, c'est ce qu'elle a fait. Vous pouvez donner un traité, vous pouvez prier, voilà, on est quelques-uns à le faire. Donc il ne faut pas un diplôme, hein, il faut juste de la bonne volonté, beaucoup d'amour, un grand sourire, la joie dans le cœur. Et on y va. C'est simple comme bonjour. C'est pas compliqué. Voilà. Et puis qui sait ? On va peut-être pêcher des gros poissons. Peut-être que par ton témoignage, la personne que tu vas évangéliser, à qui tu vas parler de Jésus, sera peut-être le futur pasteur de cette église. Va t'en savoir dans 30 ou 40 ans. Hein ? Voilà. Dieu fait des choses, hein, des choses extraordinaires. Et dans cette période troublée où les gens sont perdus, hein. Beaucoup de gens sont perdus, beaucoup de gens sont en colère, comme le disait le pasteur, annonçons un Dieu d'amour. Moi je dis aux gens, Dieu aime tout le monde, et nous on aime tout le monde. Voilà. Et le Dieu auquel je crois, il a dit, tu ne tueras pas, aimez-vous les uns les autres. Les gens ont besoin d'entendre ces choses simples. Et l'évangile c'est simple, il faut avoir un cœur d'enfant, pour le recevoir. Amen.
Amen.
Il y a une personne qui est d'accord. Mais il faut en lire plus souvent, Jean-Marie. Mais j'ai surtout entendu Jean-Marie. Je viens un petit peu sourd. Il y a quelqu'un qui a un souci avec des rougeurs. Tu as reçu ça, Cathy. Donc, si vous êtes concerné, et même si vous n'êtes pas concerné, si vous avez des soucis de santé, quels qu'ils soient, le corps ou l'âme, pendant la Sainte Cène ou après pendant la Sainte Cène, on aura un temps de prière pour les malades. Quel que soit votre problème, hein, petit ou grand, pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, le message de ce matin, il est très simple. C'est une phrase. Et cette phrase, elle dit « Fortifiez-vous ». Voilà. « Fortifiez-vous ». Dis à ton voisin, fortifie-toi. Ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de derrière, fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est un ordre. C'est un ordre que vous trouvez dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. C'est à la fois un ordre et aussi une prière. Hein ? Vous trouverez les deux. Dieu qui dit, fortifiez-vous. Et puis, le psalmiste ou quelqu'un d'autre qui dit « Seigneur, fortifie-moi ». C'est dans les deux sens. Dieu te dit ce matin « Fortifie-toi, fortifie-toi ». Et si tu te sens faible, tu dis au Seigneur « Fortifie-moi ». Et on va dire au Seigneur « Fortifie-moi, fortifie ma foi, fortifie-moi ». Éphésiens 6:10 dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voilà. Ce n'est pas une force qui est en nous, c'est une force qui nous est donnée. C'est une force que Dieu nous donne par son esprit. Et c'est une force toute puissante. C'est une force toute puissante. C'est cette force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas peu de choses. Psaume 31, verset 25, pour ceux qui prennent des notes, ceux qui écoutent, ça sera aussi sur Internet. « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Parfois, notre cœur, il nous lâche, pas vrai ? On n'a pas de courage, on n'a pas de cran, on n'a pas de cœur, voilà, il nous lâche. Eh bien, on peut dire à notre cœur, fortifie-toi, affermis-toi. Le psaume 68, qui est un très beau psaume, un psaume de David, comme tous les psaumes de David, David, c'est un homme qui a vécu des choses difficiles, des choses compliquées, et qui a vu Dieu à l'œuvre tellement et tellement dans sa vie. Et c'est du vécu. Ces psaumes, c'est du vécu. Et ce psaume 68, qui est très beau, que je ne vais pas tout lire, nous parle d'un Dieu qui prend fait et cause pour son peuple. Un Dieu qui se tient à côté de son peuple, qui ne lâche pas. Verset 4, « Les justes se réjouissent. » La joie, c'est aussi le message de ce matin. J'en parlerai tout à l'heure. « Les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. » Ils ont des transports d'allégresse. Chanter à Dieu, célébrer son nom, c'est ce qu'on vient de faire. C'est un Dieu qui nous dit, verset 5, « L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Réjouissez-vous devant Dieu. Là aussi, c'est un ordre, réjouissez-vous. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Verset 7, « Il délivre les captifs et les rend heureux. » Vous vous rendez compte ? Dieu délivre les captifs et les rend heureux. Moi, j'aime dire aux gens qui dans la rue, mais vous savez, Dieu, ce qu'il cherche, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur. Il veut que vous soyez libre. Il a mis le paquet pour que vous soyez libre. Il a envoyé Jésus pour que vous soyez libre. Seigneur, veut vous délivrer et vous rendre heureux. On témoignait, ma femme et moi, un jeune, pas si jeune, 42 ans, un homme, bon, on voit qu'il se clochardise. Bon, il a un chez lui, il habitait Nain, mais son visage, c'est la tristesse incarnée. Il a perdu il y a quelques années sa femme et puis sa mère, et sa vie s'est arrêtée. Il nous disait, mais je voudrais redevenir comme j'étais avant. Et on voit, c'est un homme dont l'intérieur est en ruine. Et on lui dit, mais tu sais, Richard, il s'appelle Richard, à l'occasion de prier pour lui, Richard, Dieu peut te reconstruire à l'intérieur et t'aider à te relever. Vous voyez, Dieu désire, qu'est-ce qu'il veut ? Il ne veut pas de nous qu'on soit des robots, des machines à débiter des versets bibliques, à aller à l'église, à faire je ne sais quoi. Dieu, il veut notre bonheur. C'est ça ce que Dieu veut. Il veut notre bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas quand je veux, si je veux, comme je veux, avec qui je veux. Le bonheur, c'est dans la relation avec lui. Il veut notre bonheur. Et puis, David, il a en mémoire tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Et il pense à Dieu qui se tient devant le peuple dans le désert. Et dans le désert, il fait très chaud. Et parfois, verset 10... Tu fis tomber une pluie bienfaisante au Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce qu'il fait encore avec vous, avec nous. Il veut nous fortifier. Et parfois, nous sommes épuisés. On s'épuise nous-mêmes parfois, on ne sait pas pourquoi, par un tas de trucs. On est épuisé, on est fatigué. Dieu veut vous fortifier. Il veut vous fortifier, vous faire du bien. Et le verset 29, je vais passer au verset 29 tout de suite. « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Et une autre traduction dit « ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. C'est un ordre puissant. Puissant sur les difficultés, puissant sur ton être intérieur, puissant sur la maladie, puissant sur la dépression, puissant sur tout ce qui te retient vers le bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est ça le message de ce matin. Ton Dieu ne veut pas que tu sois en bas. Ton Dieu veut que tu sois en haut. Ton Dieu te tire vers le haut. Il y a des tas de trucs qui nous tirent vers le bas. Il y a des gens qui nous tirent vers le bas. Il y a des circonstances qui nous tirent vers le bas. Mais Dieu, il te dit, j'ai eu cette parole ce matin dans la louange, monte, 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 monte avec moi. Je veux te tirer vers le haut. Il nous a tirés vers le haut. Quand Christ est monté au ciel, il nous a pris avec lui, n'est-ce pas ? Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et nous voyons les choses d'en haut. Il y avait cette magnifique image des montagnes. On voit les choses d'en haut, n'est-ce pas ? Quand vous allez à la montagne, vous voyez les choses d'en haut. Vous dominez, vous voyez les choses d'en haut et votre perspective change. Ben Dieu, il te dit ce matin, monte, monte, monte. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et puis après, il y a cette prière parce que, vous voyez, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. C'est toujours un double mouvement. Dieu qui te dit, et puis nous qui nous rendons compte que ben, ce n'est pas ça. Eh bien, on prie. Seigneur, affermis ce que tu as commencé en moi. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je vais prendre deux exemples pour illustrer cela. Deux hommes qui ont eu besoin que Dieu les fortifie pour accomplir la tâche qu'il leur avait donnée de faire. Cette mission qu'il leur a donnée de faire. Ces deux hommes, c'est Josué et Néhémie. Josué et Néhémie. Et je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces deux personnages, ces deux grands personnages de l'Ancien Testament. Tous les deux avaient un travail énorme à accomplir. Josué, à la suite de Moïse, devait conduire le peuple d'Israël, et c'était un peuple extrêmement nombreux, en Canaan, dans la terre promise. Et c'était un énorme défi. Et c'était d'autant plus énorme que Josué devait remplacer un monument, Moïse. Vous vous rendez compte, Moïse, l'indépassable Moïse, l'énorme Moïse. Enfin, vous imaginez être remplacé Moïse. C'est comme, je ne sais pas, moi, celui qui a succédé à Charles de Gaulle, voilà, venir après de Gaulle, vous voyez, vous comprenez, hein, c'est une figure, c'est une figure. Quel défi remplacer ce monument et en même temps gérer une foule immense. Hein, gérer une foule immense. Et Néhémie, des siècles plus tard, on est 400 ans avant Jésus-Christ, Néhémie a été appelé par Dieu à reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Et son travail, c'était de reconstruire les murailles avec un reste qui était resté à Juda, sur place, alors que tout le peuple était en captivité à Babylone. Et ce travail de reconstruction, il se fait dans un climat de peur, d'hostilité, d'opposition, de mensonge. Néhémie doit faire face à des ennemis qui font courir sur lui des bruits, des mensonges, des rumeurs, si bien que le jour, ils doivent construire et la nuit, ils doivent monter la garde. C'est un travail difficile, mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors, on va lire d'abord Josué, pas tout le livre, juste le début, le chapitre 1. Donc, le peuple se trouve au seuil de la terre promise. Moïse vient de mourir et puis c'est à Josué qu'incombe le travail, le devoir de faire entrer le peuple dans la terre promise. Et apparemment, par rapport à ce qui est écrit, on voit que c'était dur pour lui. Ça devait être extrêmement dur. Il devait baliser, comme on dit aujourd'hui. Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Ce n'est pas l'Israël actuel, hein, c'est beaucoup plus grand. Hein. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À combien de reprises Dieu lui dit fortifie-toi? Vous avez compté? Trois fois. Trois fois, Dieu répète la même chose à son serviteur. Et parfois, Dieu, il est comme ça avec nous. Hein. Il répète, on est bouché d'une oreille, il répète. Et Dieu vous dit ce matin, Dieu nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage. La clé, c'est quoi? La parole de Dieu. La clé, c'est la parole de Dieu. La clé de se fortifier soi-même, c'est la parole de Dieu. Il lui dit, ce livre de la loi, ils n'avaient pas toute la Bible, hein, ils n'avaient que la Torah, hein, les cinq premiers livres de la Bible, hein, voilà. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, et tout ce que tu feras, tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Mes amis, si vous voulez être fortifiés, ce n'est pas par la mode couée, je suis fort, je vais bien, tout va bien. C'est là-dedans. Oui, amen. C'est ça le manuel pour prendre des forces. Voilà le beefsteak. Voilà la nourriture solide. Depuis quand tu n'as pas ouvert ta Bible? Depuis quand tu n'as pas médité? Depuis quand tu n'as pas mémorisé? Parce que cette parole, hein, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut la mémoriser. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de Bible écrite. Hein. Tout peut arriver. Qu'est-ce qui va rester de la Bible? Ce que tu auras mémorisé dans ta tête, hein? Mémorisez la parole de Dieu. Lisez-la. Soyez intelligent. Et aussi, mettez-la en pratique. Et le psaume 1 nous dit pas autre chose. Il dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre produit son feuillage et son fruit en sa saison. Voilà. Et cet homme qui médite cette parole de Dieu jour et nuit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Tu veux le succès, mon frère, ma sœur? Tu veux la réussite dans tes entreprises? La parole de Dieu. Allez à vos Bibles, lisez votre Bible. Néhémie. Néhémie, il était donc un échanson du roi, un ministre, pas de n'importe quel roi. Le roi, alors son nom c'est Artaxerxès, longue main. C'est un roi babylonien, et Néhémie, il est ministre de ce roi. C'est un homme que Dieu a élevé en dignité, et tout commence par une prise de conscience. Néhémie prend conscience que, voilà, il est à Babylone, son sort est certainement très enviable, mais là-bas, Jérusalem, il a des nouvelles récentes, Jérusalem est en ruine. Jérusalem est dévastée. Et ça devient cette prise de conscience devient un fardeau. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Néhémie pleure. Néhémie jeûne. Lorsque j'entendis ces choses, vous êtes dans Néhémie 1, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, et il fait une prière. Devant la dévastation qu'il y a autour de toi, et quelque part c'est ce qui se passe en Europe et en France, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je vous encourage aussi à jeûner. L'Église catholique a appelé le peuple de Dieu, l'Église a jeûné vendredi. Tiens, au fait, on jeûne jeudi prochain. Hein. Tous les jeudis, du premier jeudi du mois, on est dans la prière et le jeûne. Hein. Le jeûne et la prière, ce n'est pas une option. Hein. Mettez ce temps à part pour le Seigneur et jeûnez et priez. Il jeûne, il prie, il prend à cœur le sort de son peuple et il prie. Ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur qu'il t'adresse jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Voyez, Néhémie, comme Daniel, devant la désolation du pays, il prend le sac et la cendre, il s'humilie, il jeûne. Et ça doit être notre attitude en période de crise, c'est de prier, c'est de jeûner, c'est de vraiment nous tenir devant la brèche. C'est ce qu'a fait Néhémie. Imaginez la muraille pleine de trous, il y a des trous. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'est tenu devant la brèche, devant le trou, et il a comblé le trou avec d'autres. Et il a prié, il a monté la garde. Voilà ce qui est demandé à l'Église aujourd'hui, c'est de se tenir devant la brèche. Et notre société a plein de brèches, il y a plein de trous. Et où est l'Église ? Que fait l'Église ? Que fait-elle ? Où êtes-vous ? Église, où es-tu ? Que fais-tu devant la misère humaine ? Que faisons-nous ? Que faisons-nous ? Est-ce que l'Église, on l'entend ? Est-ce que l'Église, on la voit ? Mes frères et sœurs, prions, jeûnons, mettons-nous à genoux, prions pour ce pays. Nous sommes solidaires de ce pays. Nous sommes solidaires. Qui dit que le prochain attentat, ça ne sera pas dans une église évangélique ou une église protestante ? Quand on a commencé, quand on attaquait les synagogues, on s'est dit « Ah, oh, ben, c'est les Juifs, c'est les Juifs ». Mais après, c'est tout le monde, et c'est nous. Alors, cette tristesse, elle se lit sur le visage de Néhémie, et le roi le voit. Et le roi lui fait grâce, et l'envoie reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors commence une aventure, un vaste défi, et comme je le disais tout à l'heure, ça se fait dans l'opposition. Souvent, quand on sert Dieu, ben on a de l'opposition. Hein. Vous ne voulez pas d'opposition ? Ne faites rien. Restez assis. Restez chez vous. Et même là, l'ennemi qui ne chôme pas, il va vous donner de l'opposition. Souvent dans la tête. Hein. Et là, l'opposition, ben, c'est deux personnes. C'est Sambala et Tobia. Les moqueries, le mépris, les rumeurs ont fait croire que, ben oui, en fait, Néhémie, il roule pour lui, Néhémie, il veut devenir roi, Néhémie, il veut s'installer à Jérusalem, être le nouveau roi de Juda. Voilà. Des mensonges. Et Paul dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Hein. La persécution, ça fait partie du programme. Hélas. Et dans ce travail de reconstruction, Néhémie doit gérer d'autres dossiers. Il se trouve que le malheur profite toujours à certains. Et à Jérusalem dévastée, il y a des riches qui en profitent pour prêter avec intérêt aux pauvres de l'argent. Et ces gens deviennent esclaves. Et Néhémie leur dit, mais attendez, mes frères, c'est quoi ça ? C'est du n'importe quoi. Vous êtes en train d'asservir vos propres frères. Et les gens sont touchés. Et les gens répare le mal, les riches réparent le mal qu'ils ont fait aux pauvres. Et puis, on est dans Néhémie 6 d'abord. Là, l'opposition, l'hostilité de ces deux hommes, Sambala et Tobia, est tellement forte que Dieu dit, d'abord il se défend, hein, je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Hein, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Verset 9, je le relis. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Vous savez, quand on travaille pour Dieu, c'est peut-être pas forcément aussi énorme que de reconstruire une muraille ou de conduire un peuple nombreux en terre promise, mais on a tous un travail à faire. On a tous une tâche à accomplir, ne serait-ce que de bien terminer sa course, de bien finir, de ne pas rétrograder. Et puis, il y en a qui ont rétrogradé, hélas. Hein, c'est peut-être ça notre course, c'est peut-être ça notre travail, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. L'Ecclésiaste dit « la fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Ça peut être d'amener nos enfants à Christ. Ça peut être d'amener cette Église plus loin. Ça peut être, vous-même, répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire pour lui? Eh bien, il y aura toujours des gens qui voudront t'effrayer. Et qui te diront, l'œuvre ne se fera pas. Vous savez, il y a les encourageurs et les décourageurs. Il y a les encourageurs et les décourageurs. Il y a ceux qui vont te tirer vers le haut et ceux qui vont te tirer vers le bas. Qui tu vas écouter? Qui on va écouter? Et là, Néhémie crie à Dieu et lui dit, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Vous voyez, c'est dans les deux sens. Dieu qui te dit, sois fortifié. Et là, Néhémie qui dit à Dieu, fortifie-moi. Et malgré l'opposition, le travail se fait, la muraille est reconstruite. Et puis vient un jour, et c'est le chapitre 8, où tout le peuple, enfin tous les Judéens sont là, rassemblés, et il se passe une fête. On lit la parole de Dieu, et le peuple est touché. Je vais lire quelques versets. « Tout le peuple est réuni, la parole de Dieu est lue à haute voix et les gens sont attentifs et touchés. » Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au jour sur la place qui est devant la porte des eaux. Donc il lit la parole de Dieu pendant au moins 4 heures, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Et voyez, là encore, hein, comme pour Josué, la clé de la fortification, c'est quoi ? La parole, la parole, la parole qui produit des choses par le Saint-Esprit, la parole qui agit. Elle agit si bien que les gens sont touchés, le peuple plus attentif. Un peu plus bas, Esdras ouvra le livre à la vue de tout le peuple qui était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel le visage contre terre. Verset 8, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » La première chose que produit la parole de Dieu, c'est l'adoration. Vous voyez ? Ils disent Amen, Amen, et ils plient les genoux et ils adorent Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous amener au Dieu de la parole. Ce n'est pas de nous donner une grosse tête avec plein de choses dedans, c'est de nous faire connaître le Dieu de la parole. Et d'adorer ce Dieu. L'autre chose que produit la parole de Dieu, c'est le verset 9. Ce jour, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » La deuxième chose que produit la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est la repentance. La repentance, les larmes. Et c'est bon. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Demandons au Seigneur le don des larmes, de prier, de pleurer sur nous, sur notre sort, mais aussi sur les gens qui sont autour de nous. Oui. Prions, pleurons, la repentance, ça c'est le deuxième fruit de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce jour-là est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en attendant la parole de la loi. Voilà. Ça, c'est un réveil. La parole de Dieu produit ce réveil par le Saint-Esprit. Et là, les chefs, ils leur disent, mais, arrêtez de pleurer. Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Taisez-vous, les Lévites les calmaient, tout le peuple en disant, taisez-vous, hein, ils ont du mal à les calmer, car taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Les larmes, c'est qu'une étape. La troisième étape, c'est la joie. La joie. Et la joie du Seigneur est ma force. 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 La joie du Seigneur est ma force.
La joie du Seigneur est ma force.
On va chanter en souriant, d'accord ? La joie du Seigneur est ma force. 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 Voilà, et puis après, la fête continue, ça dure encore très très longtemps, et ils découvrent une vieille fête qu'avait prescrit Moïse, la fête des tentes ou des tabernacles, hein, Soukhot. Mais je passe. Voyez ce que produit la parole de Dieu, l'adoration, la repentance, la joie. Et j'aimerais finir avec cette note, la joie. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Verset 10. Et Philippiens 3, Paul le dit à trois reprises aux Philippiens, Philippiens 3, 1, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et comme si ça ne suffisait pas, il le répète dans le chapitre suivant à deux reprises, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » La tristesse est un péché, mes amis. La tristesse est un péché. Un péché, c'est quoi ? C'est passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Et ce que Dieu a pour nous, c'est sa joie. Vous savez que Dieu est joyeux, hein ? Comment je le sais que Dieu est joyeux ? Il y a une réponse. Comment sait-on que Dieu est joyeux ? Ben dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, il y a trois passages qui disent trois fois la même chose, la brebis perdue, la pièce perdue, la brebis perdue et le fils perdu. Et dans la parabole de la brebis perdue, vous savez, le monsieur, le berger, il a 100 brebis, il y en a une qui s'échappe, il laisse la 99 et va chercher la brebis perdue, la met sur ses épaules et il est tout content. Et que dit la fin de Luc 15, verset 10 ? Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que font les anges ? Ils font quoi, les anges ? Ils louent Dieu, mais ils sont où positionnés à Dieu ? Ils sont devant Dieu. Ils sont devant Dieu. Et il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et d'où vient cette joie ? De Dieu. Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Et il se réjouit à la perspective de tous ces gens qui vont venir dans son royaume. De tous ces gens. Il y en a un paquet encore qui ne sont pas encore dans la bergerie. Alors réjouissons-nous. C'est notre héritage, c'est notre partage. Et l'ennemi veut nous voler notre partage et notre héritage. C'est certainement pas la joie, c'est certainement pas la tristesse. C'est certainement pas la tristesse. Et un chrétien triste est un triste chrétien. La joie du Seigneur sera ta force. Fortifie-toi. Ne vous affligez pas. Prends courage. Fortifie-toi dans le Seigneur. Levons-nous. Et soyons disponibles et ouverts et demandons le rafraîchissement de la joie du ciel. Maintenant. Seigneur, nous te demandons de nous fortifier, d'affermir en nous ce que tu as mis, les bonnes choses que tu as mis, de les affermir et viens affermir cela dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que nous sachions aussi déposer nos fardeaux, que nous sachions pleurer sur nous-mêmes et aussi sur ceux qui nous sont échus, mais que nous sachions aussi te les apporter. Seigneur, je prie pour tous nos défis qui sont devant nous. On n'est peut-être pas des Josué, on n'est peut-être pas des Néhémie, on ne va peut-être pas faire de grandes choses, mais tu nous as à tous donné quelque chose à faire. Et je te prie, Seigneur, que ce quelque chose à faire que tu nous as donné, nous puissions l'accomplir, le mener à bien, avec ton aide. Affermis l'œuvre de tes mains en nous, s'il te plaît. Seigneur. Amen.